R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bonjour. On vous a invité à une expérience de partage assez particulière. Et je vais laisser la parole à Brigitte, qui représente Mata, pour un peu plus vous expliquer dans quel cadre cet échange il a lieu.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour expérimenter une pratique assez innovante et pourtant bien ancienne, puisqu'elle nous vient d'Afrique. Mais en fait, elle a été revisitée par Fatima Tawarou, qui est la présidente de Mata. Mata, ça veut dire femme en Haoussa. Donc, c'est une association qui travaille en solidarité avec les Nigériens et les Nigériennes. Donc, il se trouve que Fatimata n'était pas disponible cet après-midi. Donc, je vais essayer de la remplacer. Et donc, cet arbre à palabre, en fait, c'est un concept que Fatimata a revisité. Donc, elle l'a pris en Afrique. Il a voyagé. Son concept a voyagé, il est arrivé en Bretagne, puis il est retourné en Afrique, il a été retoqué, puis il est retourné en Bretagne, il a été retoqué, encore un voyage en Afrique, encore un voyage, il est revenu en Bretagne, un petit peu retoqué, et donc c'est un peu ça qu'on va expérimenter. Donc, en gros, c'est un cercle de paroles qui se fait dans la bienveillance mutuelle, dans l'écoute, c'est-à-dire que chacun parle et sait qu'il ne sera absolument pas jugé. Chacun peut émettre des ressentis ou émettre des idées, parler, faire sous forme de témoignage, raconter une expérience, mais c'est vraiment en toute liberté. Et l'intérêt un petit peu de ces arbres à palabres, c'est d'essayer d'en tirer après quelque chose qui va être un peu une sorte de piste d'action pour après, on va dire, vivre mieux ensemble. C'est ambitieux, mais ça peut vouloir dire que ça peut nécessiter plusieurs allers-retours, plusieurs rencontres. Mais l'idée, au départ en tout cas, d'Arbre à Palabre, il y a cette idée-là de construire ensemble quelque chose, de pas se quitter sur un constat et puis un constat navré, on va dire, mais essayer d'avoir des pistes, au moins des pistes d'action.
Et c'est pour ça que moi je vais prendre des notes un petit peu de ce qui se dit, que ce soit sur les thématiques, sur les différents points abordés, pour qu'à la fin on ait un peu une vue d'ensemble, si ça se déchire pas, de ce qui a été dit. Ça peut donner la sensation d'avoir un peu avancé ensemble déjà à la fin de ces 1h30 de discussion. Le temps imparti est 1h30, donc c'est pas hyper long.
Je pense qu'on peut annoncer le thème. Le thème, c'est là où les mémoires, les souvenirs qui nous habitent, sous-entendu des souvenirs agréables, des souvenirs qui nous enchantent, ou au contraire, des souvenirs qui nous pèsent. Est-ce que on a envie de partager un ou des souvenirs qui nous habitent et qui pour nous sont très forts?
Eh ben, moi je m'appelle Ulysse. Je suis service civique à R22, j'ai 18 ans.
Bonjour, Bastien, je viens de Normandie, je viens de Caen, donc j'ai fait la route pour être là. Je suis très content d'être là. Et puis, que vous dire, je suis chef de service en éducatif pour des gamins qui sont placés par un juge pour enfants sur la banlieue caennaise.
Moi, je suis Henny, je suis un des trois membres des Pots de Tambour qui avons du coup co-organisé avec Brigitte et Lauriane ce qui se passe aujourd'hui.
Bonjour tout le monde, moi je me prénomme Kourotoum Konté, je suis membre de l'association Point Virgule de Paris.
Bonjour, je m'appelle Sagal et je parle un peu français. Et je suis membre de l'association de Madeira, je suis contente d'être là.
Bonjour, moi c'est Yona. Je suis en service civique à la R22 aussi, et je suis très contente d'être là avec vous cet après-midi.
Bonjour, moi je suis Jigal Timba, je suis artiste, artiste, plasticien, graphiste, je vais dire ça. J'aimerais bien commencer par des souvenirs. Ah. Normalement, moi, il y a pas vraiment de bons souvenirs à moi. Il n'y a que des mauvais souvenirs. Des bons, il y avait quand j'étais venu en France, mais là, par là, il y a maintenant des bons souvenirs à moi. Au commencement, je peux dire, j'ai vécu dans les différentes tortures vis-à-vis de mon parcours, quoi. Parcours dont j'ai fait avant que je vienne ici en France. Donc, les tortures, c'était d'abord commencé par mon pays. Dans mon pays, normalement, on dit un artiste, il est celui qui peut éduquer toute une nation grâce à ses œuvres. Les arts en soi peut aussi changer la mentalité des gens, peut aussi lancer un message. Dans mon pays, le gouvernement ne voulait pas ça. Et voyez, tout ce que moi j'ai fait, c'était contre eux à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. À cause de ça, m'avait cassé ma colonne vertébrale par des militaires. Donc, je pouvais plus aussi rester dans mon pays. Je croyais, si par contre je quitte mon pays, je pourrais trouver un endroit tranquille. Or, ce n'était pas ça le cas. Quand moi j'avais quitté mon pays, j'étais allé en Biélorussie. Par là aussi, il y avait des menaces, des morts. Je pouvais pas aussi quitter. Quand il y avait les troubles entre Russie et l'Ukraine, ils avaient ouvert des frontières. Moi, j'étais parmi les gens qui avaient traversé la frontière. Je croyais, si par contre je traverse la frontière, je pourrais aller dans un endroit où je peux trouver la paix. Ce n'était pas le cas. Quand moi j'avais traversé la frontière vis-à-vis des Lituaniens. Lituanie m'a montré les différents couleurs que j'ai insupportables. On m'avait emprisonné pendant une année. Donc, je sortais pas, je mangeais pas, je faisais que les seules choses qui m'a retenu jusqu'à aujourd'hui, c'est ma l'art. Parce que j'ai peiné à tout moment. Donc, je pouvais pas laisser à peiner. C'est comme si l'art était ma propre médicament. Donc, j'ai buvais tous les jours. Maintenant, et ils prenaient mes œuvres comme leur profit pour leur propre pays. Ils me ramenaient les matériaux, tout consort là, les différents matériaux que j'ai peinés. Et ils prenaient ça, s'ils mettaient ça dans leur musée, je sais pas. Moi, tout ce que je voulais, la liberté. C'est ce que moi, je voulais. Maintenant, on m'avait donné liberté provisoire, après une année là, à question. Liberté provisoire, on m'avait donné une badge là-dessus. On avait dit, les badges là, c'était chronométré. Donc, après 24 heures, je suis obligé de retourner au camp. Maintenant, quand j'ai été parti dans l'autre ville, maintenant, au lieu que je retourne vite, le temps était déjà chronométré, donc je pouvais plus retourner. J'ai dit non, moi, je veux plus cette ville-là. Il faudra que je trouve ma propre liberté. J'ai dit, je veux plus rentrer. J'étais devenu un phaser pendant l'hiver. Il faisait froid, je faisais que dormir dans la route, il n'y avait pas à manger. Après, on m'a dit non, il faut que tu retournes au camp comme ça, tu peux plus survivre. Car maintenant, je suis retourné au camp. On m'a enfermé dans un prison sous-sol. Il n'y avait rien pendant 3 mois. Il n'y avait rien, je ne voyais pas aussi. Quand maintenant j'ai peiné, ça avait éclaté toute l'Lituanie. Il y avait maintenant les hommes politiques, les opposants qui venaient vers moi. Il m'a dit, moi, Jiguel, toi comme tu es la voix de tout le monde, tu peux sauver tout le monde qui est là grâce à tes œuvres. Nous voulons que tes œuvres puissent aller au Parlement. Comme il y aura le président, tout consort, les gens, et toi aussi, il faut que tu puisses aller présenter tes œuvres vis-à-vis de ça. Peut-être ça pourrait changer. Parce que le gouvernement lituanien avait décidé qu'on puisse fermer tous les migrants, ils puissent pas accepter leur asile, tout comme ça. Maintenant, qui sait par contre, on me donne les refus. Les refus, on va me donner, j'ai essayé que l'autre, alors, on va lui donner. Donc, on nous considérait comme des criminels pour eux. On nous considérait comme ça. Après cela, quand maintenant j'ai exposé dans les différents endroits, c'était pour moi, si par contre il y a les expositions, moi je pars avec les militaires. Si par contre les expositions finies, je rentre directement enfermé. C'était ça. Après gouvernement, polonaise, ils ont fait appel à moi pour que moi aussi mes œuvres puissent aller là-bas, pour aussi libérer d'autres personnes qui étaient arrêtées là-bas à Pologne. J'ai signé les quoi là que mes œuvres puissent aller là-bas. Maintenant, au lieu que moi je pars, moi j'ai dit non, moi je ne vais pas partir. Si je pars, parce que la Pologne et la Lituanie, c'est à peu près les mêmes. Donc c'est la même chose, parce que le gouvernement polonais et lituanien, ça collabore de la même manière. J'ai dit non, moi ici par contre mes œuvres partent, mais pas moi. Moi, j'ai pas parti. Mes œuvres sont allées là-bas. Ils ont créé leur exposition. Tout ce que moi je voulais, c'est de m'en sortir. Après, on m'a donné la liberté. J'ai dit non, je veux plus rentrer. Maintenant, j'ai pris une voiture là pour traverser la frontière pour fuir le pays. Quand maintenant je partais dans la frontière, quoi, il y avait maintenant l'alerte qui était faite. Dis donc. Ce type-là, on a besoin de lui ici. Il ne peut pas sortir de notre pays parce qu'il est utile. Normalement, si par contre j'étais utile, on allait me donner les papiers. Et voulait, c'est comme si moi j'étais leur propre, comment je peux dire, leur propre production, quoi. Des œuvres pour leur pays. Moi j'ai dit non, et même pas. Ils n'aiment seulement ce que moi j'ai fait. Donc, ça ne sert à rien que je puisse rester ici. On m'a encore arrêté dans la frontière. Donc, j'ai fait 5 jours dans la frontière, là, au cachot, quoi. Au cachot. Après 5 jours, on m'a libéré. On m'a dit, rentre au camp. Sans l'argent, sans rien, sans quelque chose, rien. Ils ont tout pris. On m'a dit, maintenant, rentrez. Maintenant, pour rentrer dans l'autre camp, là, il faut traverser au moins 3 villes. Pour arriver là-bas. Imaginez que quelqu'un arrive. Comment j'ai pu retourner? J'étais devenu un mendiant, quoi. J'ai commencé à demander si la route, l'argent, les autres personnes me giraient, mais j'ai jeté de la salive. Maintenant, je suis arrivé dans la capitale, il y avait certains gens qui me connaissaient, ils ont dit non, ne rentre pas. C'est pourquoi tu retournes au camp là-bas, au risque de t'oublier pour du bon. Vaut mieux de rester, de chercher le moyen de pouvoir quitter là-bas. Après, il y avait un homme là qui me connaissait. Il m'a mis dans un camion là à côté jusqu'à ce que j'étais venu ici, à France. C'était ça. La continuité prochaine vidéo.
On est installé ici ensemble dans un dispositif qui est l'Abre à Palabre. Et en fait, l'objectif, c'est qu'on puisse discuter du souvenir et comment est-ce que le souvenir peut nous habiter, aussi bien les bons et les mauvais, et comment est-ce que nous, en fait, on traite en fait ce rapport au souvenir, et on est tous ensemble en fait en train d'essayer de déterminer un petit peu quels sont les rapports entre l'exil et le souvenir. Là, en l'occurrence, notre camarade a évoqué ses souvenirs précis, très précis. Par rapport à ça, je suis arrivée en France assez jeune avec mes parents. Mes parents ont vu des choses, mes parents ont vécu des choses que je pense que nous-mêmes, on n'arrive pas à s'imaginer. Moi-même, j'ai vécu des choses, je pense que j'ai préféré oublier. Et quand quelquefois je revois certaines choses, ça ressemble plus à des rêves. Donc voilà. Et du coup, camarade, je te remercie. Tout ce que tu as dit là. Merci de d'avoir ouvert ton cœur. Et on l'accueille, quoi. C'est précieux. Et ça montre aussi combien on a longuement hésité à organiser cet événement. Du coup, pour moi, la notion du souvenir, c'est plutôt par rapport à une personne exilée, les choses qu'elle arrivera jamais à partager à d'autres personnes qui n'ont pas connu ça. Parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à sortir et à se faire comprendre, tout simplement.
Bonjour, je m'appelle Sinem et je viens de Turquie. Je suis né à Diyarbakır, Ahmet plutôt, parce que c'est la capitale de Kurdistan. Et les Kurdes l'appellent comme ça, genre Ahmet. Et ça fait 5 ans et demi que je parle en français, j'habite en France. Oui, j'ai de bons souvenirs, des mauvais souvenirs. Voilà, j'ai connu la souffrance, la violence, mais l'amour, tout ça, en Turquie, ouais, aussi. Et puis après, quand j'avais 27 ans, j'ai quitté la Turquie parce que je n'arrivais pas à supporter et j'ai vu la condition des intellectuels, des journalistes en prison, et c'était l'enfer. Et c'était quelque chose que je connaissais quand j'étais à Diyarbakır. Il y a une prison qui est assez connue au niveau de la violence, et c'est la prison numéro 9. Et c'est dur parce que c'était tellement, en fait, la violence était quelque chose de banal dans la ville, parce qu'il y avait plein d'attaques terroristes, entre guillemets, contre le gouvernement turc. Je m'en souviens, on mangeait dans les rues et il y avait des bombes qui explosaient à côté de nous, mais on continuait à manger. On faisait des blagues pour pouvoir survivre, surtout psychologiquement. Voilà, il y a plein d'autres détails, mais en général, il y avait plutôt ce genre de souvenirs. Et du coup, ça fait 5 ans et demi que je suis en France et je suis diplômé de la Sciences Po. Et ça, c'était une étude que j'avais fait quand j'étais à Izmir, ou à Smyrna en français. Et puis après, je fais ma deuxième étude, je fais un master en art à l'École des Beaux-Arts de Rennes. Et j'écris un mémoire sur l'exil, sur moi-même. Et j'essaye à partir de quelques penseurs, artistes en exil, j'essaye de contextualiser le sujet. Et voilà, et je suis artiste, plasticien, illustrateur et auteur de BD.
Est-ce que moi j'ai une question, parce que là, je pense qu'on ne pensait pas vous parler comme ça. Ouais. Du coup, voilà, c'est toujours nous qui nous excusons, mais on s'excuse encore une fois. Peut-être ça peut être un peu choquant. Mais c'est clair que, par exemple, c'est comment que tu vis en fait le fait d'être entouré de personnes et de pas arriver en fait à leur parler en fait. C'est des gens que... Ouais, vous deux, ouais, les deux. Est-ce que vous arrivez à parler de vos souvenirs à autour de vous ou pas?
Normalement, moi, j'ai une psychologue vis-à-vis parce que je parle avec elle, quoi. De temps en temps, dès que comment voilà, tout ce que moi j'ai sens, je me sens un peu libre, quoi, un peu pesé à moi, à partir de là. Donc, quand moi, je parle par rapport à vous, donc c'est comme si je me libère moi-même. Donc, il y a comme si une fardeau à moi qui habite à moi. Donc, il faudrait que je puisse faire sortir tout ça. Je ne peux pas vouloir garder ça à moi. C'est ça, quoi.
Et pour moi, c'est facile parce que quand j'essaye de le faire, en fait, les gens pensent que je les prends pour des psychologues. Ou vu qu'il connaît pas le sujet, genre l'exil, il me traite comme si je suis quelqu'un de toxique ou je suis un peu trop émotionnel, etc. Franchement, c'est une très grande guerre entre moi et la société, mais ça me permet d'avoir justement mon langage artistique, ma liberté, parce que bah, dans mon mémoire, je parle, j'essaie de parler d'un lien, d'une relation entre la création artistique et l'exil. Et chez certains artistes, penseurs, en exil, ils ont découvert leur technique, leur style. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, au lieu de dire plein de choses complexes, au lieu de parler de façon complexe, ils préfèrent plutôt tout dire en une seule phrase ou en deux, trois phrases. Et si vous voulez, c'est une sorte de minimalisme, c'est la simplicité, et qui est très efficace comme une sorte de haïku, c'est la poésie, quoi. Il y a plein d'autres styles et techniques, bien évidemment. Ça, j'ai donné un exemple, mais c'est une chambre à moi. C'est le silence, ma langue maternelle. Voilà, c'est pas ni le turc, ni le kurde, ni le français, ni n'importe quelle langue, c'est le silence. C'est ce que je dis. Du coup, c'est une guerre. Ouais, c'est tellement difficile de parler des souvenirs.
Je suis en train d'accueillir, en tout cas, des propos de traumatismes vécus. J'aurais aimé, moi, quand j'étais enfant, et du vivant de mon père, pouvoir recevoir justement cette parole. Cette parole d'un papa qui a dû souffrir effectivement et qui a dû assister à des choses complètement effroyables pendant la guerre d'Algérie, qui a dû, après l'indépendance de l'Algérie, attendre un an avant de pouvoir venir se réfugier, entre guillemets, en France. Et aujourd'hui, je voudrais juste dire que même si je n'ai pas vécu ces traumatismes à lui, je n'ai pas eu son expérience de vie à lui, mais je crois que quelque part j'en ai hérité. J'ai hérité de ces traumatismes-là. Je pense qu'on bataille, hein, et on bataille avec soi-même pendant très longtemps, parce qu'on n'a pas, nous, ces enfants, nous n'avons pas eu de mots qui nous expliquaient ce qui s'était passé réellement, quoi, pour lui. Donc on vit avec un fardeau qui est aussi différent, hein, parce qu'on n'est pas directement concerné par le traumatisme. En revanche, on hérite de ces traumatismes-là, ça devient des peurs, forcément. Et cette peur, lorsqu'elle n'est pas contenue tout au long de l'existence d'un individu, elle peut aussi facilement se transformer en colère par rapport à un système, à une injustice, parce que ben on se sent tiraillé en fait. Où est-ce qu'on est ? Qui sommes-nous ? Et on est quelquefois en permanence en train de chercher son identité réellement, quoi. Donc moi je tiens à vous remercier de donner la parole à des gens. Et je vous invite, si vous avez des enfants ou si vous comptez en avoir, à leur déposer avec des mots simples, bien entendu, et en fonction de comment ils vont grandir, de leur déposer aussi vos traumatismes. Hein. Je pense que ça va être, ça leur sera salutaire quelque part. Hein, c'est comme si on peut aussi aider à guérir de ces traumatismes-là, parce que je crois viscéralement à une mémoire cellulaire des traumatismes. Ça se transmet d'une manière ou d'une autre. Et j'aurais aimé, moi, pouvoir le dire à mon père, mais il est parti beaucoup trop tôt. Et je n'avais pas la maturité pour lui demander un petit peu plus par rapport à ces traumatismes. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci pour ce partage. Et votre papa, du coup, vous n'avez pas beaucoup parlé de son expérience de vie
Non, c'était beaucoup de silence. Et nous n'osions pas, parce que je crois que nous sentions qu'il y avait des choses qui étaient de l'ordre de l'indicible.
Et son silence vous a pesé, du coup,
nous sommes... Oui, ce silence nous a pesé puisqu'on n'a pas mis de mots sur, sur son mal-être à lui.
Tu sais, il y a des choses qui ne se disent pas. Mm-hmm.
Je sais.
Et Fred, je viens de l'association Madeira qui siège à Paris. J'ai pas forcément un rapport avec la question de l'exil, mais j'ai pas mal migré. Donc, en tout cas, j'ai beaucoup bougé, j'étais mobile. Je voulais vous partager, je n'ai plus le nom de cet auteur, mais c'est un psychologue qui avait fait tout un travail parce que il avait été dans les camps d'Auschwitz. Et à son retour, en fait, il a été aux États-Unis et il a écrit un ouvrage qui s'appelait « Survivre sur les situations extrêmes et le vécu des situations extrêmes ». Et à cette époque-là, il avait fait donc dans cet ouvrage une catégorisation des vécus des situations violentes et extrêmes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une situation extrême ? C'est une situation où l'humanité qu'on a en soi est extrêmement blessée, elle est comme souillée, en fait. Et il fait une catégorie sur comment chacun d'entre nous, dans son travail avec le récit ou avec la mémoire, peut survivre ou vivre. Et à cette époque-là, il avait fait trois catégories que je vous propose de découvrir. Il disait, en fait, face à l'extrême inhumanité, on peut choisir le silence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le silence, c'est l'espace de la protection, en fait. Le silence, c'est pas la question de la culpabilité. Le silence, c'est ce qui protège. Alors pourquoi ça protège ? Parce que si on doit raconter ce qui s'est passé, alors la violence se rejoue à nouveau. Et donc le silence, c'est une façon de se protéger de la violence de cet autre qui a été inhumain avec nous. Et si on raconte à nouveau, sa violence nous rend encore moins humains, voyez ? Donc c'est une façon de se protéger, ce silence. Alors bien sûr, sur les deuxième, troisième, quatrième générations, ce silence, il est terrible, mais au bout du compte, je crois qu'il faut aussi entendre que ce silence, c'est ce qui permet de ne pas souffrir ou de ne pas revivre la violence de celui qui a violé, celui qui a torturé, etc. Vous voyez, quand on a été dans des choses aussi horribles et aussi inhumaines que celle-ci. Ça, c'est la première catégorie, ceux qui choisissent le silence comme un espace du repos et de la sécurité. La deuxième catégorie qu'il proposait, c'était... le récit, la mémoire comme un espace de parole, mais le récit qui devient pathologique. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du compte, on ne peut pas se taire de l'expérience et à chaque fois qu'on le raconte, ça fait mal et on n'arrête pas d'en parler. Et on ne s'en sort pas. Pire que ça, on devient fou. C'est l'espace de la folie de l'exil et de la torture, etc. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à se reconstruire et on est pris dans l'agissement, en fait, de la violence de l'autre sans cesse, sans cesse. Et puis, il a une note d'espoir, c'est sa troisième catégorie. Il parle de la mémoire et du récit comme un espace de transcendance. C'est ces gens qui ont survécu et qui vont nous raconter. Ils vont nous raconter les rats, ils vont nous raconter les crématoriums, ils vont nous raconter l'horreur. Et dans leurs paroles, de manière assez extraordinaire, ils deviennent humains. Là où il n'y avait aucune humanité, leurs paroles, leur capacité peut-être, je ne sais pas, à pardonner, à mettre les mots justes, font que cette parole est humaine. Et c'est comme ça qu'ils survivent. Voilà. Donc je voulais vous partager les trois formes de pouvoir intégrer le récit et la mémoire, mais il me semble que vous posez une autre question, puisque vous avez au début posé une autre question, me semble-t-il, c'est non pas qu'est-ce que la mémoire, mais comment habiter sa mémoire. Et en fait, j'ai envie de vous dire, s'il nous faut habiter un lieu, notre corps et notre mémoire comme une maison, ben, il y a des endroits qui parfois sont sombres, il y a des caves, des greniers, il y a aussi des espaces, la chambre aussi, le salon, on partage parfois à l'intérieur de soi. Et au bout du compte, dans l'exil, peut-on imaginer une mémoire sans que cette mémoire soit un peu un petit bout de chez soi ? Et où est dans votre mémoire, votre chez vous, votre chez soi ? Et comment vous le construisez ? En fait, ça c'est une question que je me posais. Et puis, j'avais encore une deuxième question à vous proposer, c'était « Et votre fabrique à souvenirs, elle est faite comment ?» Parce que moi, j'ai plus de 50 ans, donc je me dis qu'on a un rapport à la mémoire de ces souvenirs différents. plus on vieillit, plus forcément on est chargé de moments et de mémoire. Mais c'est quoi la fabrique à mémoire et à souvenir? Comment on se les fabrique? Et peut-on imaginer que même s'il y a eu violence, ces gens ont cassé notre fabrique à mémoire? C'est ma proposition de question un petit peu utopiste. Où est votre machine à fabrique? Est-ce qu'ils l'ont détruite? Ça m'étonne. On peut encore réparer les machines à mémoire.
Est-ce que là, monsieur qui vient de parler, Lafranc, il peut donner des précisions sur ce que vous entendez sur la fabrique à mémoire?
En fait, je vous écoutais et puis je me disais, mais la mémoire, c'est un espace où habiter, en fait. Donc, si on n'a plus lieu pour habiter, c'est plus de l'exil, c'est une errance totale, quoi. Enfin, donc, il faut bien, quelque part, un tout petit peu habiter sa mémoire pour pas être sans cesse en errance. Et l'exil n'est pas forcément une errance, pour moi. Hein. Il y a eu un mouvement, mais ce n'est pas forcément une errance. Ça peut être une errance, parfois, mais pas tout le temps. Et donc, je me disais, mais au bout du compte, comment fonctionne la fabrique de la mémoire? Alors, pas le souvenir, mais comment, en fait, puisque vous dites qu'elle est peut-être affectée, que c'est dur d'aller dans le passé, mais la vie va continuer. Alors, comment on entretient? Parce que si on peut pas commencer à construire une mémoire, si cette machine, on n'accepte pas qu'il y ait quelque chose qui fasse trace, alors ça veut dire que comment on s'accroche quelque part? On ne s'accroche jamais, et on s'accroche des fois par les mauvais souvenirs, on s'accroche par les bons souvenirs. Donc, est-ce qu'il y a un espace d'une fabrique à souvenirs? Et comment ça fonctionne, la fabrique à souvenirs? Pas seulement neurologiquement, hein, émotivement, dans notre capacité à s'ouvrir à l'autre, à partager des choses incroyables. Est-ce qu'on a encore envie de vivre de l'incroyable, de se donner des choses comme ça? Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Ce que j'entends, c'est que du coup, si ces souvenirs, si la personne continue à vivre, elle va vivre des choses, et si ce qu'elle vit, elle le mélange un peu à ses souvenirs pour les revisiter, les recolorer, etc., ces souvenirs peuvent évoluer et devenir une compagnie supportable. C'est un peu dans ce sens-là que j'entends.
Oui, sûrement, dans ce que j'entends, en tout cas ce que ça m'évoque, c'est par exemple la situation du deuil. Des fois, on a du mal à se souvenir des gens qu'on a aimés, parce que si on se souvient, la douleur est trop forte. Jusqu'à un moment, on a accepté qu'ils soient partis, et au bout du compte, quand ils se réinvitent dans le souvenir, alors là, des fois, on pense à des choses plus agréables. Oui.
Moi, je voulais vous parler d'une expérience plus légère, peut-être, mais j'ai accompagné des mineurs isolé. Maintenant, on appelle mineur non accompagné. J'étais éducateur spécialisé sur Caen, où on accueillait des jeunes Français placés par un juge pour enfants qui vivent des choses traumatiques aussi. Hein. Il n'est pas besoin d'aller très loin des fois pour voir des traumatismes très durs ici en France. Et on a accueilli sur le groupe, on avait 7 places, on avait 4 jeunes Français, on a accueilli 3 étrangers. De Mongol et un jeune homme qui venait d'Afrique, je me souviens plus du pays, ça va me revenir, Nigeria. Et donc c'était assez drôle parce que il parlait pas du tout français, parlait que anglais, et j'étais le seul, on était 6 collègues et j'étais le seul à parler anglais, donc tout le monde s'adressait à moi. Donc j'ai progressé en anglais, c'était cool. Mais non, tout ça pour dire qu'en fait, effectivement, ces jeunes sont arrivés en France avec le test osseux, pour ceux qui savent, pour les mineurs, comment ça se passe. L'État français demande de faire un test au CHU pour savoir quel âge ils ont. Et ensuite, si le test est positif ou négatif, ça dépend dans quel sens on prend. S'ils sont mineurs, ils restent chez nous. Et s'ils sont majeurs, eh bien, on les accueille d'abord. Et puis après, on fait le test. Et après, on se dit, il est majeur, donc il va pas pouvoir rester. Donc, moi, j'ai vécu des choses vraiment hyper... forte avec ces 3 personnages-là. Il y en a un quatrième qu'on a accueilli 3 jours, et puis au bout de 3 jours, on nous a dit « non, il est majeur, donc il a fallu qu'il s'en aille ». C'était un peu dur, là. Et en plus, ce matin-là, c'est moi qui bossais, et je lui ai dit « écoute, on peut pas le garder ». Donc il est parti, il était un peu fâché, forcément. Mais par contre, sur les 3 autres, il y a un jeune homme qui s'appelle Tengis, j'ai réussi à lui obtenir la nationalité française, maintenant il s'appelle Maxime. Ça me fait rire, mais parce que l'État français demande, c'est à la personne, je sais pas comment ça se passe chez les adultes, mais chez les mineurs, c'est comme ça que ça se passe. On leur demande de choisir un prénom français voilà, qu'ils peuvent garder. Et puis, bah, je sais qu'il vit bien, il vit à côté de Caen, il s'est installé, il a une famille, donc je suis hyper content. Et puis, l'autre jeune homme, c'est pareil, qui venait du Nigeria, il a trouvé du boulot, et, donc on était vraiment très très fiers. Et tout ça pour dire aussi que, autour de la table, avec nos quatre Français, là, qui voyaient débarquer des mecs un peu bizarres quand même, parce que, bon, la Mongolie, enfin voilà. C'est pas forcément simple à aborder pour des jeunes Français, mais au départ c'était vraiment assez un peu tendu quand même entre eux. Et puis au final, quand ils ont commencé à parler un peu plus français et à s'exprimer autour de ce qu'ils avaient vécu pour arriver en France, parce que évidemment, enfin, je suis pas au bout de l'affaire, mais vous savez comment c'est difficile de venir jusqu'en France pour ces jeunes-là qui partent de Mongolie ou d'ailleurs. Et en fait, nos quatre Français, ils ont fini par être potes avec nos trois étrangers. Et moi, quand je suis arrivé sur ce groupe-là, c'était un enfer, en fait. L'équipe éducative avait lâché prise parce qu'il y avait beaucoup de violence. Et puis les trois jeunes hommes étrangers, eux, étaient un peu plus, pas dans ce registre-là, plutôt, à regarder, à se dire, mince. Et des fois, au repas, ils disaient aux petits Français, mais putain, mais qu'est-ce que vous faites, là? Enfin, on vous propose un truc super, on vous donne à manger, on vous fait aller à l'école, et puis réveillez-vous, quoi. Et ça, c'était c'était monstrueux. Enfin, nous, les adultes, on n'avait plus besoin de parler, en fait. On laissait le groupe en autonomie, et c'était magnifique. Voilà. Donc, c'était plutôt positif comme souvenir.
Bonsoir à tous. Moi, je suis John Nangandjé-Divalé. Et je suis Camerounais. Et je suis arrivé en France en juin 2023. Je suis ravi de cet atelier aujourd'hui, malgré mon retard, et je demande grandement des excuses par rapport à ce retard. Cela ne manque pas de ma volonté, mais du retard de bus qui m'a trahi. Et j'ai suivi des différentes interventions, et autres aussi mariés. Mon histoire est celle-ci. Je suis quitté de mon pays. Bon, je suis exilé. Et j'ai fait un parcours de combattant sur mon chemin. J'ai eu un naufrage. J'ai fait un naufrage le 9 mars 2023. Nous étions 78 dans la pirogue. On a perdu 58 et nous étions 20 survivants. Et cela va à... mon histoire va à bon endroit avec cet atelier, puisque depuis ce temps, je vis un traumatisme un peu tragique. Là, devant moi, je vois cela comme un film. Je vois que cela reste toujours... Quand je dors, je rêve toujours de cela. Et je vois que dans ma vie, c'est une tâche indélébile. Je pourrais aussi, c'est une histoire que je vais essayer de raconter à mes enfants demain. Et que je vis ici et vous m'avez accueilli parmi vous. Et je ressens un acte de générosité, d'humanisme. Et là, je vois que vous êtes en train de faire reculer l'esprit de xénophobie. Et je vois que l'esprit de xénophobie, vous êtes en train de marginaliser l'esprit de xénophobie. Et si tous les Français peuvent aussi emboîter le pas, je vois que cela ira en bon endroit. Et pour le salut de nous tous, pour que nous vivions une France humble, digne de nom, et de personnalité. Bon, merci.
Je voulais dire que tout à l'heure, quand je parlais de mémoire cellulaire, lorsque j'écoute les récits de chacun, j'ai l'impression de revivre l'exil de mon père. Et c'est là où je dis l'importance, bien entendu. Je comprends la situation de départ de mon père. Je comprends ce qui l'a amené à rejoindre la France, à quitter femme et enfant. Et c'est là où je dis que c'est aussi bien d'avoir une parole qui soit libérée. Il n'y a pas de recette. Je dirais qu'il n'y a pas de recette toute faite par rapport à ça. Il est juste, voilà, s'il y a possibilité en tout cas de communiquer, d'agir et de continuer à aimer malgré tous les traumatismes, c'est déjà un bon pas pour votre descendance. Voilà.
C'est clair. Et justement, il y a j'emboîtais le pas sur cette notion de souvenir, de traumatisme, mais aussi d'assimilation. Et c'est toi qui a, ça m'a marqué tout à l'heure quand tu as dit qu'ils ont demandé à ce que le jeune homme, une fois qu'il devienne français, il change de nom, quoi. Ça en dit long aussi sur, on va dire, la capacité qu'a la société française de nous accueillir avec tous nos bagages. Et la capacité aussi que la société française à nous dire de si on veut bien faire partie, on cache un peu nos bagages, quoi. Et c'est quoi une communauté? C'est quoi une communauté de communauté? Toi, tu le disais tout à l'heure, c'est cette guerre que tu te mènes, c'est la guerre contre le silence. Et c'est aussi contre la société et contre.
Je suis pas contre le silence, c'est plutôt voilà. Quand je parlais du silence, c'était plutôt et de la guerre plutôt. C'était quelque chose qui était entre moi et
la société.
Et la société. Tout à fait. Le silence, c'est chez moi. Voilà, mais c'est un langage. Je vois comme ça. C'est pas un blocage.
Mais par rapport aux autres.
Normalement, j'aimerais soulever un point, j'avais oublié.
Vas-y.
J'ai dit des choses là, mais il me manque quelque chose. Quand par contre, j'étais arrivé en France, j'avais perdu quelque chose en moi, comme sourire. Je savais plus comment je peux sourire, quoi. Il y avait quelqu'un qui m'a rendu erré, Gaël. Que Gaël, c'est lui qui est association La Mamie. À partir d'elle, je commence à avoir le goût de vivre. Donc, elle m'a bien accueilli, elle m'a montré comment un homme devait être. Je ne savais pas comment la France vivait. Donc, j'ai appris à vivre comme des Français, quoi. Par rapport à Gaël, je commence encore à avoir le goût de pouvoir vivre au quotidien. Comme tout le monde. Merci beaucoup à la France.
Moi qui étais en train de partir avec toute la revendication et la colère. Mais...
Moi aussi, je suis dans la colère.
Ouais, moi je suis dans la colère un peu quand même.
Même absolu quoi.
Moi je dis merci la France parce que du coup je sais parler, je suis ici et puis trop bien, je suis bien habillée et puis voilà. Mais d'un autre côté, je vois. Tout est une question de ce que tu donnes, de ce que tu cèdes et de ce que tu acceptes de prendre en contrepartie. Là, si je suis avec vous, je sais que j'ai beaucoup cédé de ma vie, de choses que je tais, de beaucoup de moi, pour en fait pouvoir m'élever dans la société et pouvoir faire un peu ce que je veux aussi, à peu près, quoi. Donc, Claire, l'accent, elle est partie avec. Et c'est quand même quelque chose aussi.
Genre, ça me fait penser à une phrase, on ne peut pas vivre correctement et dans une vie qui n'est pas correcte. Et du coup, je vois plein de choses, en fait, qui ne vont pas du tout bien et qui me dérangent. Je suis exilé, mais je suis exilé même mentalement aussi. Des fois, j'ai l'impression que je suis même exilé de l'humanité. Et ça... Voilà, il n'y a pas une façon de vivre. On est le carrefour de toutes les cultures. Moi, je les accueille, toutes les cultures. Mais il n'y a pas une façon de vivre. Et j'apprécie pas seulement une façon de... une société ou un pays, ce que je veux avoir, ce que je désire, c'est plutôt une vie cosmopolite, remplie de richesses de toutes les cultures. Voilà.
Nous, les immigrés, moi je suis immigrée, mais je n'ai pas le même parcours. Moi, je suis venue, j'ai rejoint le papa des enfants. Je suis d'origine marocaine. Le souci, c'est qu'on ne fait pas plus que ce qu'on peut faire. Mais en face, on projette toujours. Vous êtes immigré, vous ne savez pas où. Voilà, c'est ça le souci. On essaie de trouver notre place dans la société. C'est très difficile de l'avoir. Très, très difficile. Et c'est pour ça qu'il y a le silence. Que vous, voilà. Moi aussi, je l'ai vécu, ça aussi. Et le papa des enfants, il est français. Il y a ce souci-là qu'on n'est pas accepté. Il y a des préjugés. Immigrés, bon voilà, t'as ta place. Même si tu deviens français, c'est pas facile. C'est pas facile. On a fait le pas. Moi, je dis qu'on a fait le pas. On parle la langue française, on connaît la culture française, on connaît la cuisine française, on connaît plein de choses de France ou des Français aussi, la mentalité française aussi. Mais en face, ils viennent pas vers nous. C'est ça. Je généralise pas, mais il y en a qui viennent pas vers nous. Ils veulent pas savoir. Moi, ce qu'on projette, c'est voilà, le couscous, les contes de gazelle. Et ça, je trouve, c'est voilà, ça se réduit à ça. Et je trouve que c'est triste. Parce qu'on fait le pas, un grand pas, mais en face, c'est un projet, voilà. C'est, vous savez pas où. Alors que non, il y a aussi des humains. Et c'est ça qu'on parlait de le bien vivre ensemble. C'est très visible. Voilà, il y a des belles phrases qui se disent, mais sur le terrain, ils sont pas là.
Bon, et en fait, j'ai été touché par l'ensemble des récits, mais les récits sont très individuels. Mais en fait, je me posais une autre question, puisqu'en fait, la palabre, c'est parler de la mémoire, c'est ça. Et donc, je me disais, là, nous tous, qu'est-ce qui fait mémoire collective? Qu'est-ce qui fait mémoire collective? Qu'est-ce qui est la mémoire qu'on peut partager? Parce que là, ce que j'entends, c'est que chacun a sa mémoire individuelle. Bon, ça, c'est... Bon, écoutez, dans un monde très individualiste, très libéral, mais qui est en train de mourir, normalement, en fait, en tout cas, on est en train de nous prédire. Qu'est-ce qui peut faire mémoire et mémoire collective? C'est peut-être ça, déjà, l'espérance dans la fabrique à mémoire. Il y a des souvenirs, certes individuels, mais il y a aussi des mémoires collectives. Donc, c'est quoi notre mémoire collective? Alors, je comprends bien ce que vous dites sur la problématique d'assimilation française. Quand on va au Brésil, il y a trois types de populations avec les Indiens. Les Indiens qui sont dans le désir de ne pas être au contact, et puis ceux qui sont au contact, on dit, ce sont indigenous assimilados. Mais moi qui viens du monde médical, vous savez ce que c'est que l'assimilation? C'est la digestion. Donc l'assimilation, c'est un fait anthropologique, c'est manger l'autre. Donc bien sûr, vous n'avez pas envie d'être mangé, je comprends. Donc parce que quand on vous demande ça, on vous demande en plus de vous déshabiller de ce que vous êtes, de votre culture, etc. Donc ne le faites pas. Par contre, en fait, on n'a pas dans la culture française une dimension comme au Brésil, par exemple, sur des valeurs dans lesquelles on pourrait travailler notre mixité, notre mixture, vous voyez, enfin une espèce de fait qu'on se pense, comme aux États-Unis, par exemple, avec un melting pot. Il n'y a pas ça en France, en fait. Ce sont nos valeurs républicaines. C'est là où on est dans notre capacité à dire que tout ça est valable pour tous.
L'universalisme.
Voilà, c'est une espèce d'une... Mais en fait, ça ne dit pas grand-chose non plus, quoi, en fait. Et pas grand-chose sur la culture. Mais au bout du compte, peut-être que c'est notre mémoire collective et comment on la construit ensemble, comment on la discute, qui peut faire trace et être une proposition d'invitation. En tout cas, je souhaitais vous proposer, c'est qu'est-ce qui peut faire mémoire et qu'est-ce qui peut faire mémoire collectivement, ensemble. Parce que ça, c'est une invitation à partager et à construire notre histoire.
Je vous remercie hein, vraiment pour cette intervention qu'en fait, en plus, qui marque à peu près la fin de cette rencontre. C'est pas la fin. Ce qui se passe dans le principe de l'arbre à palabre, c'est de synthétiser un petit peu et d'essayer de tirer des enseignements de tout ce qu'on s'est dit. Et donc Ulysse et Brigitte, ils ont un petit peu pris des notes ça répond en fait à qu'est-ce que c'est faire mémoire collective. Peut-être en fait on trouvera qu'est-ce qu'aujourd'hui a s'est dégagé en tout cas de notre rencontre. Avant que Ulysse et Brigitte et Barraille puissent prendre le micro, moi je tenais à remercier monsieur qui disait qu'ensemble aujourd'hui on chassait l'esprit de xénophobie. Et j'ai bien aimé cette image de faire oust ensemble. Et je pense que quand on parle de mémoire collective à l'heure actuelle, dans la situation géopolitique, politique, économique de la France d'aujourd'hui, de l'Europe d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, la question de l'autre et de l'autre entier, pas juste de l'autre digéré, quoi, pas juste de ce qu'on aimerait voir de l'autre. Eh ben, elle est à la fois on arrive à une époque où bizarrement on commence à nous considérer. À l'heure actuelle, on nous accorde de la complexité. Donc ça n'a pas toujours été le cas. On n'a pas toujours été des personnes complexes non plus. En tout cas, nos parents, ils en ont beaucoup souffert de ça, je pense, de la complexité d'une personne. C'est sa dignité. Hein. Paradoxalement, on est aussi au moment où les pensées identitaires montent. Et je pense sincèrement que les pensées identitaires, elles montent aussi parce que ils comprennent qu'on est des personnes complexes, intelligentes. C'est pour ça que aussi l'extrême droite monte, parce qu'ils comprennent que en fait ça fait un bout de temps qu'on est ici et que on vient de quelque part déjà, et surtout on a nos souvenirs ici aussi. Donc voilà, on va passer au moment de la conclusion, mais s'il y a bien quelque chose à acter en fait aujourd'hui, c'est et de vous remercier tous ensemble de notre coprésence, c'est vraiment cette foi ultime que j'ai en l'humain et dans la dignité humaine et dans le fait que quand quelqu'un me regarde, il voit pas avant tout une noire, quoi. Et il essaye de voir autre chose. Et pour ça, en tout cas, je vous remercie pour des espaces comme ça.
Déjà, merci à chacun d'entre vous, que vous ayez parlé ou non, juste d'avoir été là, d'avoir partagé ça. Je pense que c'était complètement imprévisible de vivre ça. On n'avait un peu aucune idée de ce qui allait se passer. C'est magnifique. Pour synthétiser, je pense que Brigitte rajoutera pas mal d'autres choses, mais moi j'ai surtout noté la manière de chacun d'entre vous de vivre avec ses souvenirs et de choisir ou non de les partager entre générations, mais aussi entre personnes qui viennent de partout dans le monde. Certains choisissent donc le silence pour plusieurs raisons, parce qu'ils s'y sentent bien. C'est une manière de se protéger et de ne pas revivre les choses que on a vécues, de ne pas non plus faire revivre cette violence à ses enfants. Mais ce silence peut faire souffrir les générations qui suivent et qui ont envie de comprendre ce que leurs parents ont vécu, qui peut faire souffrir dans leur quête de se trouver, de les trouver, de comprendre leurs parents, d'avancer et de même fonder une famille, de se poser la question de savoir si on veut des enfants. Et d'autres choisissent d'entamer le combat difficile, d'essayer de parler pour se libérer d'un fardeau. Ça peut être fait de plusieurs manières. L'art en est une qui permet de s'exprimer d'une manière différente et à la fois tellement parlante. Mais comment parler et partager face à l'inconsidération? C'est là-dedans que réside la plus grande difficulté. C'est à force de pas être considéré, comment on peut avoir envie d'aller vers les gens qui ne nous voient comme juste une personne noire, une personne arabe, une personne russe. Comment avoir envie d'aller vers les gens? Oui, un exilé, c'est ça, enfin. Des gens qui ne donnent absolument aucune importance à la différence et à la différence. Oui, et aussi, ce qui était assez frappant dans ce que vous disiez, c'était comment partager avec des gens qui ne se sont absolument jamais projetés, même dans leur imaginaire, de pouvoir vivre des situations extrêmes, des situations politiques tellement complexe, des violences inimaginables, des gens dont le quotidien est tellement, tellement, tellement différent. Moi, c'est surtout ce que j'ai noté. Après, je suis très ému, donc je pense que j'oublie la moitié de ce que je voulais dire. Mais globalement, merci encore une fois à tous, à chacun d'entre vous. Je pense que c'est un bol d'air là dans ce climat horrible de montée de l'extrême droite et des discriminations et des génocides et de tout ce que vous voulez. Voilà, merci beaucoup et je te passe le micro.
Eh ben, merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont parlé. J'ai été très touchée par tout ce qu'on a entendu, donc merci infiniment. Ce qui m'a particulièrement touchée, c'est j'ai eu l'impression que cette négociation très difficile par rapport à la violence qui peut être extérieure et qu'on peut mettre à distance, comme disait monsieur, où on peut même manger et puis voir des bombes à côté sans faire attention, juste pour que ça soit supportable, ou la violence à l'intérieur, comment l'acclimater pour qu'elle devienne habitable. Cette espèce de négociation intérieure qui fait que cette violence absolument brute va pouvoir évoluer, se transformer, quelque chose comme si elle était sublimée avec le temps. J'ai entendu aussi la place du silence et la protection que confère le silence, et qui peut être quelque chose de très fort, de très habité. J'ai entendu la libération par la parole, et par l'accueil de cette parole dans un groupe. Et j'ai entendu aussi la place que peut jouer l'art dans la façon de vivre ces mémoires. Parce que quand on crée, bien sûr, on crée avec son histoire, son passé, mais on crée dans un instant particulier. Donc, on intègre ce présent. Donc, on continue d'avancer. Et j'ai entendu aussi le travail sur l'identité, puisque l'identité, elle est forcément malmenée avec tous les traumatismes. Et en plus, cette identité, elle est confrontée à une demande extérieure de ville, très vilain mot, d'intégration, qui est difficile à supporter. Et j'ai entendu cette espèce d'identité cosmopolite, comme a dit monsieur, où en fait, je le comprends dans le sens où on se retrouve dans beaucoup de cultures, mais pas dans une seule. On a l'impression d'être un peu, sans doute, planétaire, mais on se sent proche de plusieurs cultures et non pas d'une seule qui serait sa culture de départ. Voilà, je vais dire comme notre ami Ulysse, que c'est vrai, on est très ému de toutes ces choses qu'on a entendues. Est-ce que je te repasse la parole, Lauriane? Est-ce que vous faites des expositions? Est-ce que vous avez un lieu où on peut les voir? Comment est-ce qu'on peut faire? Vous avez une petite carte de visite, que sais-je?
En ce moment, j'ai une exposition solo, au Grand Tank, Imoja, et jusqu'au 14 avril. Imoja. Et grand angle. Et l'œuvre que j'expose là. Et cette œuvre que. Vous voulez que j'explique ou... Ah, ok. Du coup, cette œuvre est inspirée d'une poésie iranienne. Et le poète s'appelle Kaver Basiri. Il a écrit une poésie qui s'appelle 99 noms de l'exil. C'est une liste des noms qu'on utilise pour humilier et pour marginaliser les gens. Il y a quoi comme mots? Street arab, queer, Jew, dirty, evil. Voilà, je pense que vous avez l'idée. C'est une grande liste. Il y en a 99 et c'est le nombre d'Allah. Dans la culture islamique, il y a 99 noms du Dieu, de l'Allah plutôt. Et du coup, à partir de ce poème, j'ai fait 99 visages de l'exil, Du coup, vous voyez des visages fantomatiques. Ils sont là, mais pas tout à fait, comme les exilés. C'était pour pouvoir parler de la précarité et de la fragilité de leur vie.
Généralement, moi, je suis un artiste, peintre, céramiste et graphiste. Les œuvres d'art dont vous voyez là-bas à peinture, ce n'est qu'une partie. Une partie de ce que j'ai fait. Donc, c'est comme si une miette, quoi. Parce que j'étais arrivé en France le 1er janvier 2023. Malgré tout ce temps-là, j'ai parvenu à faire au moins 190 œuvres dans peu de temps. C'est là. Mes œuvres d'art parlent de l'environnement, la politique et tout ce que nous voyons. Il y a une œuvre d'art là qui parle trop. Donc, je dois expliquer cela. L'œuvre à question, j'ai mis l'enfant dans l'Afrique. À très déplairé. L'enfant là, dans l'Afrique, il nous représente nous. Nous, les étrangers qui sont ici en Europe, cet enfant. Il nous représente, nous, les migrants quelconques. Donc, on fuit notre continent par rapport à les différents problèmes. Il y a les différents problèmes, chacun de nous a les différents problèmes, je ne sais pas. Maintenant, on fuit pour venir à l'Europe. Mais à l'intérieur de l'Europe, j'ai mis la carte de France pour montrer aux gens, nous sommes précisément la France, quoi. Donc, on demande l'aide. Comme moi, je suis dans les sols français, c'est ça. Il y a encore une autre touche. À ce moment-là, je n'ai pas les liens pour peindre. Donc, je suis dans la recherche. C'est là. Pour me voir, mes œuvres d'art, j'ai une carte de visite par là où vous pouvez fêter par Instagram, dans email, là. C'est bon.
On doit se quitter très rapidement. Vous pourrez retrouver l'émission sur notre site r22.fr. Donc vous pourrez réécouter tout ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à faire tourner aussi. Et la suite. Et on demandait une potentielle suite à cet événement, aussi par r22.fr. Vous pourrez être tenu au courant de si on organise par la suite d'autres abracadabras, d'autres plateaux radio, si vous voulez, si vous avez des connaissances en traduction d'actualité, que vous voulez nous rejoindre pour traduire dans votre langue, n'hésitez pas à nous écrire sur radio@r22.fr. Voilà. Et merci beaucoup.
R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.